France Musique.
Classique Info, Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On en parlait la semaine dernière, la nomination de Jean-Philippe Thiellet à la tête du Centre National de la Musique est loin de faire l'unanimité.
À peine nommé, déjà contesté, dans un communiqué signé par entre autres la Févis et Profedim, les représentants du secteur musical regrettent l'éviction de Catherine Ruggeri. Elle œuvrait, explique-t-il, depuis déjà 6 mois à ce qui s'apparentait non plus à une mission de préfiguration, mais à un véritable lancement opérationnel du Centre National. Sans mettre en doute la légitimité du professionnel, ajoute-t-il, cette nomination va à contre-courant des ambitions affichées en matière d'égalité homme-femme dans un secteur musical qui accuse un retard dramatique. C'est à lire sur notre site francemusique.fr.
Un nouvel épisode dans un feuilleton qui date de il y a des années maintenant. Les opposants aux travaux des loges du Palais Garnier essuient une nouvelle défaite judiciaire.
Et un nouveau rebondissement, c'est encore possible puisque le tribunal correctionnel a jugé irrecevable car non fondée la constitution de partie civile de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. C'est cette dernière qui accusait l'Opéra National de Paris d'avoir détérioré, je cite, le Palais Garnier avec des travaux sur les cloisons des loges de son premier balcon.
C'est en ce moment à Paris une exposition à découvrir sur l'histoire méconnue de la création du chant des partisans.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Le chant des partisans, certainement oui, le chant partisans, le plus connu de la résistance française, mais ce que l'on connaît moins, c'est son histoire et celle de sa création. Et c'est justement l'objet d'une exposition qui se tient en ce moment au Musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides à Paris. Alors on doit le chant des partisans à une femme, Anna Marly, chanteuse d'origine russe. Elle a fui son pays après la révolution d'octobre de 1917, avant d'être naturalisée française et engagée dans la résistance de la France libre à Londres en 1941. Elle mettra son talent musical au service de la résistance, comme l'explique Lionel Dardenne, historien et commissaire de l'exposition. Il est au micro de Victor Tribault-Laspierre.
Elle va jouer, en fait, elle va mettre son talent au profit au théâtre aux armées. Elle va jouer pour les soldats, les militaires britanniques, mais aussi tchèques, polonais. Et elle va en 1941, en lisant un article sur les partisans soviétiques autour de Smolensk, écrire sur un coin de table ou même dans les coulisses, écrire une chanson, donc Les Partisans, où elle évoque ce combat des populations civiles contre l'armée allemande. Et elle, c'est le mot de partisan tout de suite qu'elle retient, même d'une façon presque viscérale, puisque pour les Russes, les partisans, c'est vraiment le dernier rempart de la patrie en danger. C'est un peu à ces combattants qu'elle veut rendre hommage dans ce chant des partisans qu'elle écrit en russe et qu'elle chante en russe à partir de fin
1941. Le chant des partisans est rapidement choisi pour devenir l'indicatif de l'émission de radio Honneur et Patrie diffusée depuis la BBC à destination des résistants de France. Sa mélodie en version sifflée restait identifiable malgré le brouillage allemand des ondes. Et elle a tout de suite attiré l'attention d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, l'un des cadres de la résistance à Londres. Il cherchait un chant pour fédérer les résistants de France et il a alors mis en relation Anna Marly avec Joseph Kessel et son neveu Maurice Drouon, tous deux romanciers et résistants à Londres.
C'est Emmanuel Dastier de la Vigerie qui disait qu'on ne gagne une guerre qu'avec des chansons. Et donc lui, qui était le fondateur du mouvement Libération Sud, connaissait très bien les réseaux, les mouvements en France occupée et les cadres de la résistance ou de la France libre à Londres. Et il savait bien que beaucoup de gens combattaient donc pour le même idéal de libération de la France, mais ne se connaissaient pas forcément les uns les autres. Et donc, quand il entend Anna Marly, il se dit que ça, c'est un chant qu'il faut pour la France, et il demande à Drouon et à Kessel de lui écrire des paroles en français, en leur disant « Je veux un chant qui ait l'air de venir du maquis ».
Le texte de la chanson est publié dans les cahiers de la Libération, puis diffusé dans les maquis, mais il faudra attendre la Libération pour que le chant des partisans devienne connu de tous et reste connu encore aujourd'hui.
On peut dire, puisqu'elle est jouée dans les cérémonies aujourd'hui, que c'est la Marseillaise de la Résistance. C'est la seule chanson, il me semble, en tout cas depuis la Révolution, qui peut être chantée autant par les chœurs de l'armée française que par les hauts ferrets. Donc, en passant par Yves Montand, Johnny ou Camélia Jordana. Laisser entendre que ça venait du maquis, que ça venait des profondeurs de la France occupée, d'une colère qui s'exprimait par le chant des partisans, ça aussi, ça a fait en sorte que, du coup, il appartient pas à un mouvement particulier ou à une personne ou à un réseau, il appartient à toute la résistance. Et d'ailleurs, Maurice Druon disait que des gens avaient été fusillés en chantant le chant des partisans et que le chant des partisans appartenait à tous ceux qui l'avaient chanté.
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
Et on entend justement la version de Johnny Hallyday ici qui date de 1998.
Qu'elle vous plaît, Jean-Baptiste, cette version. Et à savoir qu'à la même époque, Anna Marley a également composé La Complainte des Partisans avec des paroles d'Emmanuel Dastier de La Viégerie, une chanson devenue elle mondialement célèbre après la reprise de Leonard Cohen en 1969.
L'exposition Anna Marley et le chant des partisans, c'est à découvrir en ce moment et jusqu'au 5 janvier à Paris au Musée de l'Ordre de la Libération. C'est aux Invalides. Et le 17 novembre dernier, Martin Penney consacrait à la compositrice l'une de ses émissions Tour de chant sur France Musique. C'est à réécouter sur francemusique.fr. On termine avec Placido Domingo qui pour la première fois a répondu aux accusations de harcèlement sexuel qui pèsent sur lui.
Dans cette interview accordée au journal en ligne espagnol El Confidencial, le ténor de 78 ans affirme vivre un cauchemar, sans doute les mois les plus difficiles de sa vie, accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes. Il affirme ne s'être jamais comporté de manière aussi agressive, vulgaire. Les Espagnols sont chaleureux et affectueux, dit-il. J'ai été galant, mais toujours dans les limites de la galanterie chevaleresque. Des gestes qui à l'époque étaient considérés comme des compliments qui aujourd'hui sont perçus différemment, se défend Placido Domingo.
Classique Info, c'est aussi sur francemusique.fr. À demain,
Sophia. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.